Daniel Joanneau, bonjour.
Bonjour.
Vous avez connu Robert Mugabe à l'époque où il luttait contre les Blancs de Rhodésie. Quel homme était-il ?
Non, je l'ai connu juste avant l'indépendance et c'était un mois et demi avant les élections qui l'ont porté au pouvoir.
Quel homme était-il ?
Très intelligent. On a eu l'impression qu'il avait un peu oublié sa formation marxiste et que, par réalisme, il allait conserver intact le patrimoine minier, industriel et agricole de la Rhodésie. On a eu cette illusion. On a cru un miracle au Zimbabwe en avril 1980. On a cru vraiment que ce pays allait enfin devenir indépendant, que les Noirs allaient enfin accéder au pouvoir, mais que l'essentiel des Blancs importants économiquement allait rester.
Mais il avait quand même passé 10 ans de prison. Est-ce qu'il n'avait pas une revanche à prendre sur les Blancs de Rhodésie ? Ça ne se sentait pas ?
Ça s'est senti plus tard, cette revanche. Effectivement, au cours de ces 10 ans, son petit garçon qui vit avec sa femme ghanéenne meurt et Ian Smith lui interdit d'aller aux obsèques. Donc, on a toujours dit que c'était le début du racisme anti-blanc de Mugabe, mais au début, il a voulu que les Blancs restent. That's the only way we can overcome a little trouble. And brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right.
Alors là, vous reconnaissez, monsieur l'ambassadeur, ce qu'on écoute là ?
Oui, c'est le stade, c'est Bob Marley.
Oui.
Au stade Ruffaro.
Voilà, nous sommes le 17 avril 1980.
Oui,
nous sommes dans le grand stade de Salisbury, la future Harare. C'est le jour de l'indépendance du Zimbabwe.
Mais je me souviens très bien de cette folle soirée au stade. Il y a eu une foule considérable et complètement hystérique. Et puis, la foule a commencé à envahir la pelouse où devait avoir lieu à minuit le changement de drapeau. Et le vent a tourné et les gaz lacrymogènes que la police utilisait pour disperser la foule se sont dirigés vers les personnalités étrangères. Donc vous aviez plusieurs rangées de chefs d'État et de gouvernement, Madame Gandhi, le prince Charles, tout le monde avait les yeux qui piquaient.
Et alors c'est à ce moment-là que Bob Marley entonne la chanson qu'il vient de composer pour la circonstance. Zimbabwe, vous vous souvenez de
absolument,
ce
absolument.
Un moment d'émotion, non,
j'imagine. Ah oui, de très grande émotion, puisque toute l'Afrique était devenue indépendante, mais l'Afrique du Sud et la Rhodésie étaient restées à la traîne.
Aux côtés de Robert Mugabe, il y a déjà Emmerson Mnangagwa. Quelle était sa place dans la toute jeune République du Zimbabwe ?
Elle était stratégique. Emmerson Mnangagwa a été un des premiers compagnons de route de Robert Mugabe. Quand Mnangagwa a 17 ans, Mugabe l'envoie en Chine pour former le noyau de l'armée de la ZANU-PF, la ZANLA. Mnangagwa revient en Rhodésie, participe à l'organisation d'un sabotage de voies ferrées et au meurtre d'un fermier blanc. Il est arrêté, condamné à mort, gracié parce qu'il est mineur, mais il se retrouve en prison avec Mugabe. Ils vont passer 5 ans en prison ensemble.
Ah, ce sont des compagnons de prison alors.
Ce sont d'abord des compagnons de lutte. Et en prison, Mugabe prépare un DES de droit public. Il suit les cours par correspondance et il enseigne à Mnangagwa. Alors, c'était vraiment le père et le fils. Moi, je les ai souvent vus ensemble et c'est cette impression qui se dégageait de leur cohabitation.
Et alors, pourquoi ce surnom, le crocodile, pour Emmerson Mnangagwa ?
Parce que c'est l'homme des services secrets et c'est un homme secret. Et donc, il est en plongée. On ne voit que les yeux.
Mais dès l'époque, dès les années 80 ?
Oui, il était chargé par Mugabe de reprendre en main les services rhodésiens qui étaient entièrement constitués de blancs et dirigés par des blancs.
Il n'était pas dogmatique ?
Non, réaliste, pragmatique, très patriote.
Alors il y a la lumière, puis il y a les ombres. En janvier 1983, Robert Mugabe est accusé d'avoir fait massacrer 20 000 opposants de la communauté Ndebele dans le Matabeleland. Pourquoi une telle cruauté ?
Mugabe, finalement, il a voulu le pouvoir pour lui tout seul. Et la responsabilité d'Emmerson Mnangagwa, elle reste à établir. Il y a effectivement une zone d'ombre.
Alors justement, à l'époque, Emmerson Mnangagwa est ministre de la Sécurité d'État.
Oui.
Donc a priori, il est impliqué, non ?
Moi, j'avais quitté le Zimbabwe, je ne peux pas vous en dire davantage.
Alors vous dites, entre Mugabe et Mnangagwa, il y a une relation de père à fils. Oui, mais pourquoi justement le père répudie le fils ?
Parce que le père veut rester. Mugabe a toujours dit, seul Dieu peut me faire partir. Donc Mugabe ne supporte plus que celui celui qu'il avait choisi comme dauphin, veuille lui succéder. Et il le limoge de sa fonction de vice-président, mais beaucoup plus grave, il l'exclut du parti. Et donc, cette exclusion de la ZANU-PF, le parti historique, cette exclusion, elle est inacceptable pour les militants du parti, pour beaucoup d'anciens combattants, et puis toute l'armée. Et Mnangagwa, c'est un adversaire redoutable parce que il est à l'intersection du parti, de l'armée et des services. Et il a donc une position stratégique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Mugabe n'a jamais eu le pouvoir tout seul.
Mugabe n'a jamais eu le pouvoir tout seul, contrairement à ce qu'on a pu dire.
Daniel Joanneau, merci.